Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport que vous êtes, mes chers auditeurs. C'est bien évidemment Bartoli Time, nous faisons notre grand retour après 3 semaines d'arrêt. Vous avez tellement manqué, un Bartoli Time où nous allons, comme d'habitude, revenir avec précision, enthousiasme et toujours la petite pointe d'humour, voire de mauvaise foi, qui nous caractérise sur les sujets brûlants du week-end. La mauvaise foi, bien sûr, c'est surtout pour moi. Vous le savez, n'hésitez pas à composer le 32-16 si vous voulez réagir sur un sujet, n'êtes pas d'accord avec moi ou simplement exprimer votre point de vue. Composez le 32-16, le standard est ouvert. Bartoli Time, c'est aussi ça, une émission d'interaction avec vous, mes chers auditeurs. Et puis enfin, je crois qu'il a un peu de mauvaise humeur, alors je vous laissais dire bonsoir, mais je crois que j'y sais droit, un petit coup de gueule à pousser, n'est-ce pas, mon JC?
Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Tu veux un édito politique?
Vas-y, lance-toi.
Non, mais j'ai voulu rentrer après les grandes gueules du sport tranquillement pour embrasser la famille. Voilà, j'ai mis 3 heures pour faire 8 km. La raison, Xi Jinping, le président de la Chine, est arrivé à Paris. Et donc, Paris était totalement bouché, bloqué.
Rues.
Ah, un peu bouché, oui. C'est-à-dire qu'on était totalement à l'arrêt, voilà, pendant 3 heures.
Ah, voilà.
Voilà. Alors, en plus, tu me connais.
Pour les Jeux, tu te fais un peu de soucis ça va aller?
Non, mais je suis très optimiste pour les Jeux Olympiques. Oui. Je n'arrête pas de les défendre, même dans les grandes gueules du sport. Mais là, pour une personne, bloquer tout Paris, s'il vous plaît, faites quelque chose. Voilà, c'est mon petit coup de gueule.
Oui, quand même, la Chine, c'est pas un petit pays.
Oui.
Bon, ils sont venus nombreux, ils avaient un grand cortège.
Alors oui.
Voilà.
Une 50aine de voitures, 2 hélicoptères, tout était normal. Tout s'est bien passé. Bref, voilà pour cet édito politique à retrouver évidemment en podcast. Et peut-être qu'on inventera cette séquence, peut-être que le JC Bastogne, ça peut être plutôt pas mal dans cette émission. Sinon,
je pense qu'on va lancer l'idée.
Au programme, chers auditeurs, dans quelques instants, la une de Bartoli Time, Richard Gasquet sera ton invité exceptionnel, Marion, lui qui vient de dépasser les 1000 matchs en carrière.
On va ressortir la boîte.
Performance majuscule. 19h20, le Stade Toulousain retourne en finale de la Champions Cup 3 ans après leur dernier sacre. L'entraîneur de la défense, Laurent Thuéry, sera dans Bartoli Time pour revenir sur ce succès, en demi-finale face au Harlequin. C'est puis 19h40 de la Formule 1 avec le Grand Prix de Miami à 22h. Verstappen peut-il vraiment fuir Red Bull? Nous nous poserons la question, toutes les dernières informations avec notre spécialiste Jean-Luc Roy. Un petit cadeau ou pas, Marion, dans ton émission?
Mais bien sûr, toujours des cadeaux, tu sais. Bien.
Mardi,
on est généreux.
Le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions.
Tiens, on va poser la question à Richard Gasquet, savoir ce qu'il en pense.
Parc des Princes, t'as bien raison, lui le supporter parisien. On vous propose dans cette émission de vivre l'expérience RMC, c'est-à-dire la visite des studios RMC avant la rencontre. Ensuite, direction le Parc des Princes avec la personne de votre choix pour assister au match. Et puis, vous allez tranquillement revenir à RMC dans les coulisses de l'afterfoot pour le débrief du match en direct. Dès que vous entendez dans cette émission ce signal, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Soyez très attentifs. Vos places pour PSG Dortmund se gagnent uniquement sur RMC. Allez, c'est parti. Marion, Richard, cœur inoxydable.
Richard Gasquet joue depuis l'âge de 4 ans.
Sensational from Gasquet.
Rapidement, le jeune prodige fait parler de lui. À 9 ans, il est en une des magazines.
Oh, he opened up the court beautifully, Gasquet.
Et à 12, il remporte le mondial des jeunes, le tournoi des petits
âges. Il est français, Richard Gasquet.
Pour Pierre Huguet Richard.
RMC, la une de Bartoli Time.
Il y a 10 jours, Richard Gasquet a franchi une barre symbolique. Le Français a disputé le 1000e match de sa carrière. Une longévité hallucinante, une performance rare. Ils ne sont qu'une poignée à avoir réussi ce marathon. Écoutez les noms. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Jimmy Connors, John McEnroe, Ivan Lendl, Fernando Verdasco, David Ferrer. Et donc Richard Gasquet, dans 3 semaines, il devrait disputer le 21e Roland-Garros de sa carrière. Peut-être le dernier, on va lui poser la question. Marion, forcément. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Bonsoir Richard. Alors Richard, je vais quand même donner quelques petites anecdotes à nos auditeurs durant l'interview, mais surtout en introduction, je voudrais vous dire que c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand des respects. On a grandi ensemble, on se connaît depuis qu'on est tout petit et on rêvait de pouvoir un jour fouler le cours central de Roland-Garros, se voir plus. Et on a eu la chance tous les deux de tutoyer parfois les étoiles et de les atteindre même, surtout pour Richard avec cette carrière absolument exceptionnelle. Donc c'est une immense joie pour moi de t'accueillir aujourd'hui dans mon émission. Encore une fois, je te le répète, j'ai un immense respect pour toi et je l'aurai toujours.
Bah écoute Marion, merci beaucoup. Tu sais, l'amitié que j'ai pour toi depuis le temps qu'on se connaît, c'est vrai qu'on a joué tous les tournois de jeunes tous les deux avec nos pères respectifs. Donc voilà, c'est clair que tu as fait une carrière exceptionnelle d'avoir pouvoir gagner Wimbledon. C'est sûr que si on t'avait dit ça quand tu avais 9 ou 10 ans, quand je jouais les tournois de jeunes en France, c'est sûr qu'on aurait levé les yeux au ciel. Donc c'est, bravo déjà à toi pour tout ce que tu as réalisé. Tu sais, l'admiration et l'amitié que j'ai pour toi déjà. Voilà, je voulais commencer l'interview comme ça.
Bah c'est ça, quand deux grands champions se rencontrent du tennis français en tout cas, et bah ils échangent des amabilités. Mais pas que, Marion, tu vas aussi nous dévoiler quelque chose sur Richard. Vas-y Marion.
Rien de compromettant, je vous promets. Alors Richard, moi j'aimerais revenir sur un chiffre qui m'étonne et j'en discutais d'ailleurs avec ton kiné actuel, qui est quelqu'un que je connais très bien. Tu as 37 ans aujourd'hui, tu en auras 38 dans quelques semaines. Tu as une carrière immense, ça a été rappelé en introduction et je continue à le rappeler tout au long de cette interview. Mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est comment tu arrives tous les matins à te réveiller, à avoir l'envie de prendre ton sac de raquettes, de continuer à t'entraîner, où tu trouves la motivation, parce que très franchement, on a quelques années d'écart, mais pas tant que ça. Et moi, j'y arriverai plus du tout, et ça depuis longtemps. Donc, comment tu fais pour arriver à continuer à avoir ce sentiment et cette flamme qui est en toi sur un terrain de tennis?
Bah, déjà, c'est sûr qu'au niveau, au niveau physique, forcément, c'est pas pareil qu'à l'époque. C'est sûr, quand t'as 25 ans et 37, c'est un truc qui est totalement différent. Mais après, la passion, en tout cas, reste la même. Voilà, l'adrénaline de pouvoir jouer encore un tournoi de Roland-Garros dans 3 semaines, après se retrouver à Wimbledon, à l'US Open, c'est des choses qui me font toujours rêver, même si je les ai jouées une vingtaine de fois. Voilà, j'ai toujours la passion d'aller faire des matchs, d'avoir le public, le vestiaire, c'est des choses qui sont quand même incroyables à vivre. Donc, tant que je peux le faire, je vais le faire. Et c'est vrai que je ressens toujours du plaisir. Forcément, t'as plus totalement le même niveau, mais je suis quand même très, très heureux à presque 38 ans de pouvoir jouer encore à ce niveau-là. C'est quand même une fierté. Et comme je t'ai dit, j'ai toujours le plaisir de le faire, et c'est ça qui m'a toujours guidé, c'est ça qui me fait continuer ma carrière aujourd'hui.
Tant que je peux le faire, je vais le faire. Richard Gasquet est notre invité exceptionnel dans Bartoli Time ce soir. Justement, Richard, toi qui connais ton corps par cœur, c'est quoi la date limite, j'ai envie de dire?
Bah, tant que je peux continuer, je le fais, mais c'est sûr que forcément, plus tu te rapproches, plus tu avances en âge, plus ça devient compliqué, plus la date d'arrêt se rapproche. Mais bon, j'essaye de continuer, peut-être sur une fin d'année, peut-être à Roland-Garros l'année prochaine, peut-être plus tôt. J'ai pas de date en tête, si ce n'est forcément, je sais que ça va forcément se rapprocher.
Donc c'est
très
pas
vite,
forcément
bon,
ton dernier que, Roland.
On ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut l'être. Il y a des chances que ça le soit. Après, peut-être il y a Bercy en fin de saison. J'ai pas arrêté la décision. En tout cas, je vais essayer de jouer encore un petit peu. Si je pouvais en faire encore un Roland Garros l'année prochaine, c'est sûr que j'aimerais. Mais après, c'est loin d'être fait, quoi.
On a plein d'autres questions évidemment à te poser, Richard. Juste sur ce sujet, est-ce que si tu prends ta décision d'arrêter avant donc ce dernier Roland Garros, enfin ce Roland Garros qui arrive en mai, est-ce que tu l'annonces sera avant, justement pour non pas créer l'engouement, pas forcément besoin de ça, mais pour avoir une fête organisée à ce moment-là. Est-ce que tu vas l'annoncer avant si c'est le cas?
Non, parce que j'espère, j'aimerais bien jouer l'année prochaine. Voilà, donc je pense que s'il y aurait Bercy en fin de saison, je pourrais m'arrêter là ou l'année prochaine à Roland-Garros, mais en tout cas aujourd'hui dans ma tête, j'aimerais bien jouer le dernier l'année prochaine, quoi. Après, est-ce que j'en suis capable? C'est dur à dire, mais en tout cas, dans ma tête, c'est ce que j'espère aujourd'hui, quoi.
Marion Bartoli avec Richard Gasquet.
En tout cas, nous, au plus tu continues, au plus on est heureux, parce que moi, je ne me lasse jamais de te commenter et je ne me lasse jamais de voir ton magnifique revers long ligne. D'ailleurs, j'ai préparé en fin de cette interview un entretien, un petit questionnaire dénommé revers long ligne gagnant en ton hommage, pour te dire à quel point je respecte ce coup chez toi et je l'ai adoré. Écoute, moi j'aimerais revenir sur ta meilleure performance à Roland-Garros, parce que quand on est français, qu'on est jeune, bien évidemment, le tournoi dont on a envie le plus de briller, c'est forcément chez nous à la maison sur le cours central de Roland-Garros. En 2016, tu as atteint les quarts de finale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te reste dans ta tête de cette épopée? Quels sont les souvenirs qui te reviennent? Est-ce que c'est une odeur, une ambiance, un coup, un cours, un public? Est-ce que tu peux nous décrire cette performance de 2016?
Ouais, un peu de déception aussi, parce qu'en quart de finale contre Murray, je menais, quoi. J'étais pas loin de faire 2-7-0. Je pense que c'est une année où j'aurais pu atteindre la finale, quoi. Je m'en sentais capable. Après, j'ai pas réussi. Il y a toujours eu quelques joueurs qui m'ont toujours battu, quoi. Voilà, Muriel m'a souvent battu à Roland-Garros. C'est vrai que cette année-là, j'étais proche d'être en demi. Donc, il y a pas mal de déceptions par rapport à ça. Mais après, oui, Roland-Garros, voilà, c'est clair que c'est le tournoi qui fait toujours rêver. J'ai mieux joué dans les autres Grand Chelem, soit à Wimbledon ou à l'US Open. Mais en tout cas, oui, effectivement, l'attente, elle est toujours plus forte à Roland-Garros. C'est sûr que quand tu rentres sur le central, c'est quelque chose que t'as toujours rêvé depuis que t'es jeune. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est incroyable. Je te dis, en 2016, j'avais fait une belle performance. Mais après, il y a toujours aussi un peu de déception par rapport à ce match-là.
Alors, Richard, tu m'as tendu une perche pour ma question suivante. On a joué beaucoup d'années ensemble sur circuit. On a même joué ensemble pour la France Open Cup. Je crois d'ailleurs que je t'ai fait perdre puisque tu l'as gagné sans moi. Donc, j'étais vraiment la mauvaise partenaire. Mais j'aimerais revenir sur ta première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. C'est à Wimbledon. Nous sommes en 2007. On est programmé en même temps, toi sur le court numéro 1 contre Roddick en quart, moi contre Justine Hénin en demi. Et je suivais ton score sur le tableau d'affichage à chaque fois qu'on était au changement de côté et je te voyais commencer à renverser un match qui semblait complètement perdu où tu étais archi mené par Roddick et remonter pour à la fin remporter ce match venu absolument de nulle part. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur et donc cette première demi-finale d'un grand chelem pour toi?
Bah, moi aussi, je me souviens de ton match, tes matchs, tout ça, la finale que tu avais fait. Voilà, c'est incroyable derrière de se dire qu'après la finale, t'en as gagné un. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et après, ouais, bah, écoute, c'était un match qui était beau. Je me souviens que je parlais de 2-7-0. J'avais réussi à gagner 8-6 au 5e set sur Roddick, c'est un des plus grands matchs de ma carrière. Malheureusement, je me souviens que j'étais retourné le lendemain pour jouer en demi-finale. C'est en demi-finale de Grand Chelem. Tu t'attends à aller plus loin, mais c'est vrai que Federer m'avait encore une fois arrêté. C'est sûr que c'était un.
T'avais pas eu beaucoup d'heures de récupération moi, non plus.
Mais j'étais quand même assez loin de la finale quand tu réfléchis en demi-finale. Voilà, Federer avait été quand même plus fort que moi, quoi.
Et justement, Richard Gasquet avec nous et avec Marion Bartoli dans Bartoli Time ce soir. Justement, on parle des meilleures performances et j'imagine que Marion veut nous rappeler d'autres anecdotes. Et c'est souvent la question que l'on te pose. Tu en as gagné de nombreux, des tournois 16 au total en simple. Est-ce que dans cette carrière magnifique et très longue, on en parlera avec ce 1000e match il y a quelques jours, est-ce qu'il y a quand même des regrets? Tu parlais notamment de ce Roland-Garros en 2016, où franchement, quand tu vois cette carrière, tu te dis, mais voilà, c'était écrit comme ça.
Est-ce qu'il y a des regrets? Il y en a toujours des regrets. Tu te dis que voilà, tu peux toujours faire des choses mieux. Mais en tout cas, bon, j'ai toujours donné le maximum. Chaque fois que je suis arrivé en demi-finale de Grand Chelem ou des finales de Masters 1000, ça a toujours été les meilleurs qui ont gagné. Que ça fait des rafles, Djoko, Nadal, même Murray, il m'a souvent arrêté. Bah après c'est comme ça, le sport c'est une science un peu exacte, hein. Voilà, si j'ai perdu contre eux, c'est qu'ils étaient meilleurs que moi. Il y en a deux ou trois qui ont réussi dans cette épopée à gagner des grands chelems, Del Potro, Wawrinka. Mais bon, moi j'ai pas réussi. Après, je suis fier d'avoir pu jouer avec ces champions là, d'avoir réussi à passer une vingtaine d'années avec eux. Mais oui, forcément, quand tu t'arrêtes en demi de grand chelem, tu te dis pourquoi j'aurais pas pu faire finale, pourquoi pas gagner. Bah ça c'est le sport, t'es toujours compétiteur. Mais bon, quand je me revois, je me dis quand même que j'ai fait une belle carrière, que j'ai fait le maximum, quoi.
Une immense carrière même. Alors justement, tu as battu un des joueurs qui a été cité, qui a franchi lui aussi la barre des 1000 matchs, c'est David Ferrer. Et je pense bien évidemment au quart de finale de l'US Open 2013, où tu arrives à le concasser en 5-7, en 3h30 de match dans la fournaise de New York. Et donc, nous sommes en 2013, je viens de prendre ma retraite et on est pendant le tournoi. Et Richard me dit, tiens, est-ce que tu pourrais m'accompagner sur la 5e avenue pour faire un peu de shopping? Donc je me suis transformée de vainqueur de Grand Chelem quelques semaines avant à conseillère de shopping. C'est là où je me si mince, peut-être que j'aurais pas dû prendre ma retraite. Mais justement, tu arrives toi à atteindre les demi-finales de l'US Open. Est-ce que tu te souviens de ce match contre Ferrer? Je pense que oui. Mais c'est surtout d'aller arriver à le battre au physique, finalement à la moelle, en 5-7 sur un joueur qui est réputé pour être un des plus forts physiquement. Est-ce que ça aussi, c'est une des plus grandes victoires de ta carrière?
Bah ouais, déjà je voulais te côtoyer. C'est clair qu'attends, t'étais vainqueur de Grand Chelem. Moi, j'avais jamais dépassé des demi-finales, donc je t'appelais voilà pour essayer d'aller faire
attends,
du shopping et tout.
Attends, j'ai sorti les bouchons. J'ai pleuré.
Peut-être que je vais prendre son fluide et tout, on sait jamais, mais tu vois, ça n'a pas marché. J'ai fait que demi-finale, moi. Derrière toi, t'es arrivé à gagner les tournois.
Mais moi, j'ai jamais fait 2000 US, donc tu vois, je prends ta
ouais, mais bon, c'est pas la même chose, moi. Tu vois, j'arrive pas. Quand je suis en demi, j'arrive pas à aller plus loin. Mais en tout cas, ouais, c'était un gros match. J'avais fait un match énorme pour battre Ferrer, qui était 4e mondial. Mais bon, encore une fois, derrière, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, et je m'étais fait arrêter sur Nadal. En demi-finale encore une fois, donc t'es forcément très très heureux d'arriver là, d'être en demi, mais après t'as toujours envie de faire mieux et tu butes un peu sur toujours sur les meilleurs, donc c'est pas quelque chose qui était toujours facile à vivre, mais en tout cas ça a été un peu ma carrière.
Richard, vu que l'on est sur des considérations techniques, Marion, elle est bonne en shopping?
Ouais, rien à dire, elle est très forte.
Ah mais moi j'ai fait acheter tout le magasin, donc je pourrais pas me rater.
C'est vrai. Après avoir gagné Wimbledon, on peut racheter le magasin même sur la 5e avenue de New York.
Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça peut aider.
Richard, tu venais de parler de Rafael Nadal. On connaît ses difficultés du moment. Il est en train de revenir et on espère le voir à Roland. Est-ce que tu as des contacts avec lui? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Tu t'entraînais avec lui cet hiver?
Ben oui, exactement. C'est pour ça. Est-ce que tu restes en contact? Est-ce que tu sais un peu dans quelle forme physique il se trouve au-delà des matchs que l'on peut voir à la télé?
Bah, j'étais chez lui, ouais, cet hiver au mois de décembre. Il s'entraînait fort quand même, quoi. J'ai été étonné de la capacité qu'il avait à jouer, à récupérer. Mais après, c'est vrai qu'il s'est fait mal très très vite en Australie. Ça a été un coup d'arrêt terrible pour lui parce que reprendre à Barcelone, quand même, il a reperdu 3 mois. Après, là, je l'ai vu jouer. C'était mieux à Madrid, quoi. C'était quand même mieux à Madrid. Après, la question, voilà, il faut pas rechuter. Après, Roland Garros, c'est sûr que c'est 3-7 gagnants. Forcément, je pense qu'il va gagner. Voilà, j'ai pas de doute qu'il va gagner. Il va gagner quelques matchs sans aucun problème. Après, où jusqu'où, ça, c'est compliqué à dire. C'est tellement dur, tellement d'intensité. Il faut jouer tellement 5-7, voilà, récupérer, repartir sur des joueurs qui jouent très très bien, qui sont jeunes. C'est quelque chose de très difficile. Après, Rafael Nadal, forcément, Roland Garros, connaît tellement bien le court, tellement bien l'atmosphère que bon, tout est possible. Est-ce qu'il en est capable? Moi, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Lui doit savoir. Et encore, je suis même pas sûr. Ce que je sais, c'est que déjà, c'était mieux à Madrid et on va voir ici un peu à Rome ce qu'il peut produire. On en saura un peu plus après pour Paris.
Richard Gasquet, notre invité exceptionnel ce soir dans Bartoli Time sur RMC. Justement, pour poursuivre la question, Richard, sur Rafael Nadal, est-ce que pour toi, déjà, quand tu connais parfaitement les exigences du haut niveau, est-ce que l'exploit, c'est déjà de disputer Roland Garros ou c'est d'aller loin dans le tournoi quand on s'appelle Rafael Nadal?
Ouais, quand on s'appelle Rafael Nadal, on peut pas que disputer Roland Garros, c'est ça le souci. On a gagné 14 fois, donc forcément on a un degré qui est énorme. Après, voilà, je sais pas exactement ce qu'il pense aujourd'hui de son côté, mais je pense qu'il se voit quand même aller loin, quoi. S'il le joue, c'est quand même pas pour figurer. Donc s'il joue ce tournoi-là, c'est vraiment pour aller plus loin. Après, ce qu'il pense aussi au jeu, à mon avis, c'est quelque chose de très réalisable aussi qu'il puisse atteindre une médaille, quoi. C'est un 2-7 gagnant, ce sera toujours à Roland-Garros, ce sera cet été, il fera chaud. Voilà, donc je pense qu'il a ça en tête. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a une énorme envie de jouer et de revenir à un très bon niveau, quoi.
Marion avec Richard.
Alors effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, j'y sais, mais j'aimerais revenir sur cette fameuse barre symbolique des 1000 matchs parce que je trouve ça juste ahurissant et hallucinant comme stade que tu es arrivé à avoir, parce qu'à la fois tu as été extrêmement précoce. Bon, je vais pas revenir sur la couverture de Tennis Magazine, mais tu as été aussi surtout champion du monde junior dès 2002. Ton premier match pro, tu le joues à Monte Carlo cette même année. Tu le remportes d'ailleurs face à l'Argentin Franco Squillari. Et là, tu arrives à 1000 matchs. Lorsque tu as joué ce 1000e match contre Sonego, que tu allais vraiment chercher, parce qu'il a fallu que tu joues des challengers, il a fallu vraiment que tu te bagarres pour arriver à pouvoir le jouer, ce 1000e match. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as eu des flashbacks et tu es revenu sur les tout premiers que tu as joués? Est-ce que tu étais simplement concentré sur l'événement, mais pas forcément en t'arrêtant sur ce match particulier? Ou il y a vraiment une émotion qui t'a traversé, que tu as ressenti à ce moment-là?
Bah, il y a eu beaucoup d'émotions. Bah, c'est 1000 matchs sur le circuit. Les challengers ne font pas partie.
Exactement.
Donc,
exactement.
En plus,
c'est pour ça que tu as été le chercher.
Pas mal de challengers, mais c'est vrai que ouais, c'est beau d'arriver à ce chiffre-là. Je te dis, c'est vraiment la passion du jeu. J'ai toujours pensé qu'à ça durant ma carrière, essayer de progresser, essayer de jouer. Ça a toujours été un plaisir pour moi de me retrouver sur ces tournois-là. C'est sûr, j'aurais pas pensé jouer encore à cet âge-là, mais oui, c'est sûr, jouer 1000 matchs sur le circuit, c'était un beau chiffre. Et c'est sûr que j'ai été assez fier de pouvoir le faire, parce qu'il y a très très peu de joueurs qui ont réalisé ça, quoi.
1000 matchs, ça vaut un titre ou pas, Richard?
Ça dépend quel titre, c'est toujours pareil. C'est sûr que tu me dis, voilà, tu gagnes Wimbledon, et c'est sûr que c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à jouer beaucoup de matchs, à jouer beaucoup de saisons sur le circuit. Il n'y en a pas eu non plus beaucoup, mais bon, c'est sûr que des vainqueurs de Grand Chelem, il y en a peut-être encore moins.
Et quand on se retrouve à côté de, et Marion l'a rappelé, hein, Federer, Nadal, Djoko, Lendl, Connors, John McEnroe, ça fait quoi?
Bah, ça fait beaucoup. C'est sûr que j'ai réussi à atteindre ce chiffre-là. Ça veut dire que j'ai fait une longue carrière, que j'ai joué beaucoup, de matchs tous les ans, qu'il fallait être au classement, parce qu'il faut au moins jouer 50, 60 par an pour se retrouver à en jouer 1000. Voilà, donc c'est sûr que c'était un gros chiffre. J'espère en faire encore un petit peu. Je sais pas exactement combien, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu les savoures quand tu joues des matchs sur le circuit, parce que tu sais qu'il t'en reste plus beaucoup.
Marion.
Alors moi, Richard, j'aimerais revenir sur deux personnes qui ont été extrêmement importantes dans ta vie. Un petit peu comme moi, tu as un projet au départ extrêmement familial avec ton papa, Francis, qui t'a enseigné le tennis et ton fameux revers à une main. Ta maman, Maryse, qui te sautounait aussi. Je les embrasse d'ailleurs très affectueusement parce que je les ai vraiment côtoyés beaucoup à tes côtés et on a une histoire assez commune à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui à tes parents ?
Bah, c'est tout part d'eux, quoi. Comme toi, ton père, voilà, comme Walter, c'est clair que tout part de lui. Moi, tout part de mes parents. Ils étaient profs, forcément. Donc, j'ai eu une magnifique jeunesse, quoi. J'ai pu jouer. J'allais au stade à côté. Je jouais au foot. Après, je m'entraînais avec mon père. Donc, c'est sûr que je peux que le remercier et que les remercier, en tout cas, d'avoir pu avoir cette jeunesse-là, de m'être fait plaisir et d'avoir des souvenirs incroyables aujourd'hui. Grâce au tennis, j'ai pu me réaliser, faire une belle carrière. Et en tout cas, c'est grâce forcément au départ et à mes parents. Donc toujours voilà, de grands remerciements, quoi.
Alors j'aimerais finir cette interview, après cette petite séquence émotion sur tes parents, par un questionnaire que j'ai appelé en ton honneur pour te rendre hommage. Le revers long ligne gagnant. Ouais. Alors ça va commencer avant même de poser mes questions, parce que mes questions vont être relatives aussi à ton palmarès. Je vais justement égrener les lignes de ton palmarès. 16 titres remportés, 1000 matchs en carrière, seulement 8 joueurs sont arrivés à franchir cette barre symbolique. J'y sais à rappeler les noms. 956 semaines consécutives dans le top 100, ce qui t'a permis justement d'atteindre ces 1000 matchs, parce que uniquement les matchs sur circuit ATP ou les matchs en Grand Chelem sont comptabilisés. Vainqueur de la Coupe Davis en 2017, 3 fois demi-finaliste de Grand Chelem, 2 fois Wimbledon et 1 fois l'US Open, 3 finales de Master 1000. Vainqueur du double mixte à Roland-Garros avec Tatiana Golovin, et ça fait appeler Paul Oublié, bien évidemment. Et puis la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres 2012 avec Julien Beneteau. Alors ma première question, ta plus grande victoire, Richard ?
La plus importante, je dirais, c'est quand même le double avec Pierre-Hugues Gerbert, quoi. Je pense en 2017, tu vois, tu t'attends peut-être pas à cette réponse-là, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu de... Si on avait perdu cette année-là, cette Coupe Davis sur la Belgique, je pense qu'il n'y aurait pas eu de... Ce serait un non-retour derrière. Ça aurait été très très dur de vivre avec ça, parce qu'on a fait beaucoup de finales. On avait une grande génération. Donc je pense que ce double était capital. On n'était pas loin de la défaite, alors qu'on était bien favoris. Donc en tout cas, c'était peut-être pas le plus grand match que j'ai joué, mais c'était le plus important. Je pense que j'aurais pas pu résister à une défaite. Je pense que je m'en voudrais encore aujourd'hui. Donc le match le plus important, c'était celui-là. Après, le plus beau, je dirais Federer quand même. Quand j'ai 19 ans à Monaco, j'étais 100e mondial, il était numéro 1. Je partais sur le court avec très très peu de chance. Le public était énorme ce jour-là, j'étais tout jeune. Donc je pense que ça reste quand même un énorme souvenir. Après, j'ai eu des belles victoires, mais émotionnellement, celui-là est un peu au-dessus des autres.
Ta plus douloureuse défaite ?
Bon, Federer en Coupe Davis de très très loin, ouais. De très très loin en 2014 à Lille, parce que bon, j'ai pas existé, il y a eu 3-7. Il y avait une attente qui était phénoménale, quoi. J'ai pas réussi à aucun moment à enflammer le public, à faire 4 ou 5-7. Donc j'ai perdu, j'avais perdu le double avant, c'était une finale qui était très très importante, il y avait Federer, Wawrinka, notre génération de notre côté, et voilà, ça a été douloureux de perdre et de laisser la Suisse gagner chez nous, quoi.
Le match que tu voudrais rejouer ?
Bah celui-là, quoi, vraiment, s'il y en a un que j'aimerais rejouer, c'est
bon,
vraiment
Roger.
C'est vraiment
tu vas te faire finale, Roger, tu vas te faire Roger. Le titre qui te laisse le plus grand souvenir ? Le titre, j'ai bien dit le titre, pas le match, le titre.
Ouais, c'est quand même la Coupe Davis, quoi. Voilà, même si c'est par équipe, on a tellement cherché à l'avoir, depuis tout jeune, on a joué beaucoup de finales, on a perdu sur les Anglais, les Espagnols, les Serbes, les Suisses. Et là, pouvoir gagner, c'était quand même une vraie délivrance, quoi.
Alors attention, question beaucoup plus difficile. Te souviens-tu de notre premier entraînement ensemble ?
À Itteuil, non, c'est pas ça ? C'est pas Itteuil ?
C'est ça, il a une mémoire en plus, incroyable.
Tu vois, attends, je me souviens,
te coincer là-dessus maintenant.
Non, je me souviens très très bien, ouais, très très bien.
C'était après.
Bah écoute, on a réussi à faire une carrière, on aurait signé.
Exactement,
à ce moment-là pour faire ça.
C'est clair.
Voilà.
Et ma dernière question, qui va gagner Roland-Garros cette année pour toi ?
Bah, c'est compliqué là, c'est compliqué à dire, parce que Alcaraz a quand même mal au bras, on est à 3 semaines de Roland-Garros, Sinner a un peu mal à la hanche. Djokovic n'a pas beaucoup joué, c'est compliqué, quoi. C'est très très ouvert, quoi. Pour l'instant, tous les mecs sont pas en énorme forme. En tout cas, pour moi, c'est ces trois joueurs qui sont quand même bien favoris.
Tu dois obtenir un nom, Richard.
Ouais, je dirais, je sais pas, quoi. Je mettrais Ouais, je mettrais 6 nerfs, moi, toujours, un petit nerf, mais bon, tu verrais qui, toi, tu vois qui?
Je pense que Djoko va bien revenir, c'est bien
ouais,
entraîné,
Djoko
et
aussi,
il va tous les manger à la fin.
Ouais. C'est possible, possible aussi.
Et pourquoi pas,
en tout cas,
Richard Gasquet.
Je viendrai t'interviewer sur le terrain de Roland-Garros avec un immense plaisir.
Et on espère que tu iras le plus loin possible dans ce tournoi de Roland-Garros.
Exactement.
Juste, Richard, j'ai deux petites questions. Comment tu imagines la fin? Est-ce que tu te l'es déjà mentalisé?
Pas tant que ça. J'ai plus à Roland-Garros ou à Bercy, forcément. On a la chance en France d'avoir ces deux tournois-là. Moi, j'ai vu Gilles à Bercy et Joe à Roland-Garros. Donc, je l'imagine comme ça, quoi. Soit l'un, soit l'autre. Quoi. Après, quand exactement, je ne sais pas. C'est dur à dire.
Mais c'est le comment
à Bercy. Bah, avec
tes amis, avec ta famille.
Les gens qui m'ont soutenu.
Tes entraîneurs. Les gens qui ont
voilà,
compté
mes
pour
entraîneurs, le tennis français, parce qu'on est tous issus de là, les clubs, voilà, le public. Je m'imagine, voilà, une belle fête, quoi. Après, forcément, ce sera. Ça doit être forcément bizarre, quoi, parce que bon, on a toujours joué au tennis depuis tout jeune, donc ce sera un moment qui sera très très particulier, mais bon, j'essaye en tout cas de pas trop y passer pour l'instant.
Et puis la question la plus importante de cette interview tout de même, mardi soir, il y a le Paris Saint-Germain qui affronte le Borussia Dortmund en demi-finale retour. Toi, le grand supporter du PSG, il y aura combien, Richard?
Bon, après, c'est vrai que je suis connu comme supporter du PSG. Il y a Montpellier aussi, d'abord. Avant le PSG, ça a toujours été Montpellier, quand même, avec Loulou, voilà, que j'avais toujours plaisir à voir. Après, le PSG, je pense qu'ils vont 3-1, je dirais 3-1 pour eux.
En tout cas, ça va en finale.
Ah oui,
c'est
la confiance. Ah oui, la confiance.
Ouais, je pense que ça va en finale. Ouais, ça va en finale. Tout est de leur côté. Il y a eu le tableau a été bon. Ils ont réussi à battre Barcelone. Là, il y a eu 15-0 à l'aller. Donc, oui, je pense que c'est un match qui est quand même très important. Voilà, pour l'histoire du club. Je pense que c'est aujourd'hui, ils sont quand même favoris pour aller en finale, même si tous les matchs sont difficiles. Une demi-finale, ça va être dur, mais je les vois vainqueurs. Ouais.
Merci Richard Gasquet d'avoir été avec nous en direct.
Merci Richard. Merci
avec plaisir,
tout.
Merci Marion.
Je te vois Roland Garros.
Merci, Lise. Avec plaisir.
Et à bientôt
merci
sur RMC, tout. Au revoir.
Merci, au revoir, au revoir.
Richard Gasquet avec nous, avec Marion Bartoli, et votre programme continue, évidemment. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la très belle victoire du Stade Toulousain en demi-finale de la Champions Cup, direction la finale pour les Toulousains. L'entraîneur de la défense, Laurent Thuéry, sera notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC. Jusqu'à 20h. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
19h30 de retour dans Bartoli Time sur RMC. Alors, on vous en a parlé ce matin dans les grandes gueules du sport. Hugo Moulin qui a poussé son petit coup de gueule. En tout cas, qui a un petit peu piqué au vif ses joueurs en disant oui, bon, c'est bon, vous avez tout gagné. Mais là, il va falloir quand même se la gagner, cette demi-finale de Champions Cup. Et l'ont fait. Le Stade Toulousain est qualifié pour cette finale. Nous allons en parler tout de suite, n'est-ce pas, JC?
Exactement. Dans quelques instants, restez bien avec nous. Sachez que dans une dizaine de minutes, Jean-Luc Roy, notre spécialiste Formule 1, sera dans le studio RMC avant le Grand Prix de Miami. C'est ce soir à 22h à Suivre. Sur RMC, nous parlerons de Max Verstappen. Pas forcément de sa pole position, il n'y a pas grand-chose à dire.
Oui,
mais
non,
surtout
mais ça
de
va.
Son
toutes les semaines, c'est pareil. C'est
avenir,
bon.
Son avenir, oui. Toute la semaine, le paddock n'a pas arrêté de parler de ça. Est-ce qu'il va vraiment quitter Red Bull pour Mercedes? Pourquoi pas, on lui posera
gossip,
la question.
Hein. C'est le gossip.
Et vous nous donnerez, évidemment, on vous donnera toutes les dernières informations et Marion vous donnera son avis. Mais tout de suite, le Stade Toulousain, toujours plus grand.
Super, le ballon qui ressort avec la passe de Moubaka, la santé en
c'est bout, c'est
le seul. Et le premier essai, un Toulousain, magnifique travail de Moubaka.
Ok, oh, les exclamants, oh là là, l'interception, oh, ils ont joué avec le feu derrière le Quincy, ils se font punir, et tant mieux pour le Stade Toulousain, il est arrêté,
et Dupont,
l'essai d'Antoine Dupont, le doublé.
Pour Pita qui joue dans son dos avec Antoine Marc.
Oh, magnifique.
Passe pour Ramos. Sur les extérieurs pour Malia. Le retour intérieur de Malia. L'essai du Stade Toulousain.
Il l'a récupéré. Et c'est sorti. Et c'est fini. Voilà, Toulouse qualifié pour la finale de Champions Cup.
RMC Bartoli.
à la folie.
Quelle belle ambiance c'était cet après-midi sur RMC. Sublime. Avec aux commentaires Wilfried Templier, Christophe Cessieux, Julien Landry, le Stade Toulousain qui retrouve la finale de la Champions Cup 3 ans après son dernier sacre européen. 8e finale dans son histoire pour le Stade Toulousain. Victoire donc cet après-midi face aux Harlequins 38 à 26. Les hommes du Gomola retrouveront le Leinster le 25 mai prochain à Londres. Dans un instant, nous allons accueillir notre invité, l'entraîneur de la défense de cette équipe, c'est Laurent Thuéry. Mais tout de suite, Wilfried Templier, qui a participé aux conférences de presse, est avec nous également dans Bartoli Time. Bonsoir Wilfried.
Salut JC, salut Marion.
Salut Wilfried.
Déjà, quelle était la teneur des propos? On imagine le Stade Toulousain ravi, les joueurs ravis de retrouver une finale de Champions Cup après un match tout de même très abouti, même si on en reparlera avec notre invité.
Ouais, soulagé, assez souriant quand même. Voilà, il y a des choses à sortir de ce match parce que Toulouse a déroulé jusqu'à la mi-temps 31-12 en faveur du Stade Toulousain.
Et puis il y a eu ce gros trou d'air après, hein.
Ouais, 14-0 ouais, derrière. Et c'est vrai qu'ils prennent 2 essais transformés en retour de mi-temps, hein, et que tout le matelas qu'ils avaient, les Harlequins reviennent à 31-26. Et peut-être qu'on en parlera avec notre invité, parce qu'il y a eu un carton jaune au talonneur des Harlequins, Walker, qui a tout changé à la fin, puisque Toulouse a pu rajouter un essai, et voilà, et respirer un peu. Mais c'est vrai que il y a eu un contraste entre une première mi-temps quasi parfaite, formidable. Par contre, on a passé une superbe après-midi. Yann Delegue avec nous, c'était extraordinaire dans l'ambiance du stadium avec cette première mi-temps. C'était voilà, tout le monde avait des étoiles dans les yeux. Ça a été une superbe demi-finale, faut être deux pour ça. Les Harlequins ont fait un très bon match, mais ça a été une superbe demi-finale. Et voilà, maintenant, faut déjà se tourner. C'est dans 3 semaines où ils vont retrouver leur meilleur ennemi du Leinster, contre qui ils ont perdu 2 demi-finales de suite.
Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain, est ton invité, Marion, dans Bartoli Time ce soir. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir Laurent, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors Laurent, on va commencer par le très très positif. Vous rejoignez à nouveau une finale européenne, une de plus. Forcément, il y a beaucoup de soulagement et de satisfaction ce soir.
Bah oui, bien sûr, c'est une performance de notre part de revenir en finale. On l'avait en tête depuis le début de la saison. Cette Coupe d'Europe était un vrai objectif. Donc voilà, on est plus qu'à une marche de quelque chose d'extraordinaire. Mais ravi de cette victoire aujourd'hui.
Alors, je parle de soulagement, Laurent, parce que Wilfried l'a évoqué dans son introduction. Effectivement, il y a eu cette première mi-temps absolument sublime. Vous nous avez tous régalés. Et puis, il y a eu quand même ce petit trou d'air à la reprise où vous encaissez ce 14-0. Hugo Mola procède d'ailleurs à des changements tactiques en faisant notamment entrer Ramos à la place de Lebel. King Horn qui glisse à l'aile et Ramos qui prend son poste habituel derrière. À ce moment-là, vous avez quand même eu des petits doutes ou vous êtes resté quand même extrêmement serein dans le résultat final?
Ben forcément qu'on a un petit peu douté parce qu'on savait à la mi-temps que ben il fallait qu'ils réagissent. On sait qu'ils sont très très bons, notamment en attaque, donc on savait qu'ils allaient tout mettre sur le début de seconde mi-temps pour coller au score parce que c'était la chance qu'ils avaient de revenir dans le match, et c'est ce qu'ils ont fait en nous mettant à la faute notamment sur nos rucks offensifs et qui nous a ben, cantonnés dans nos 22 mètres. Et donc voilà, on prend 2 essais. Le banc aussi nous a fait du bien forcément pour retourner un petit peu la situation, et comme je l'entendais, c'est vrai que ce carton jaune après sur Walker a permis de réinvestir les 22 mètres adverses, de marquer cet essai qui là nous a vraiment vraiment soulagé.
Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain, est notre invité après cette qualification pour la finale de la Champions Cup des Toulousains. Wilfried Templier avec Laurent.
Ouais, c'est vrai qu'on parle de Strouder, Laurent, mais bon, il y a eu une première période incroyable. Voilà, 31-12, c'est peut-être un score final parfois dans certains matchs. Et là, c'était à la mi-temps avec 5 essais marqués. Alors, c'était pas parfait parce qu'ils en ont marqué 2, mais quel regard vous portez sur ce que vous êtes capable quand même de faire dans cette première période? Et puis, peut-être que c'est pas plus mal d'avoir eu la suite pour la finale parce qu'il y aura des choses à dire, mais cette première période quand même.
Bah oui, la première période est forcément aboutie. Il y avait un petit peu de tension à la préparation du match et les joueurs sont très vite rentrés dans la partie en marquant. Après, on savait que les Harlequins, sur le coup pour coup, arrivaient à remarquer rapidement. Mais ouais, on marque 5 essais. Donc c'est sûr que peut-être qu'il y a eu un petit relâchement de manière inconsciente à la mi-temps aussi et qui nous a pas aidé à bien entamer cette seconde mi-temps. Mais ouais, c'était forcément abouti, notamment en attaque avec des très jolis mouvements. Heureusement d'ailleurs qu'on a marqué aussi, je pense, 5 essais en première mi-temps, puisque ça nous a permis de gérer un peu plus de seconde mi-temps et de rester en tête malgré ces 2 essais transformés.
Marion, Bartoli en parlait il y a quelques instants. C'est vrai qu'Hugo Mola, en conférence de presse, avait dit voilà, cette équipe, cette génération Dupont, allez, appelons-la comme ça, Dupont-Entamac, n'a pas encore marqué le Stade toulousain de son empreinte. Est-ce que ça passe par ce genre de performance? Il faudra confirmer face au Leinster pour affirmer qu'il y a une génération comme les autres auparavant, parce que le Stade toulousain gagne depuis des années, vous le savez très bien.
Beaucoup gagné, même.
Voilà, est-ce qu'il faut ça? Est-ce qu'il faut une victoire en finale?
Bah, bien sûr qu'il faut, c'est en gagnant des titres que les générations marquent leur empreinte et marquent les gens, tout simplement. Donc,
c'est pas mal jusque-là, quand même.
Ben, ces deux générations-là, on a déjà gagné 4. Mais, ouais, quand on est en finale, forcément que on va tout faire pour la gagner. On sait que ça va être dur face au Leinster, mais, ouais, les demi-finales, c'est toujours des matchs très particuliers qui sont pas simples à gérer. Les finales, il y a plus rien à calculer, il y a plus rien derrière. Donc, à nous de bien se régénérer, parce que sincèrement, c'était un match de très haut niveau et ça a cogné. On a été peut-être un peu aussi surpris par la chaleur, parce que les derniers jours de pluie ont fait place à un beau soleil ici sur Toulouse aujourd'hui. Mais ouais, il va falloir bien récupérer, travailler et arriver dans les meilleures dispositions possibles pour réaliser une grande finale. Et forcément que si cette génération-là gagne encore quelques titres, ben, petit à petit, elle rentrera dans l'histoire de ce club.
Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense du Stade toulousain, est notre invité. L'invité de Marion Bartoli dans Bartoli Time ce soir sur RMC. Marion.
Alors Laurent, vous l'avez évoqué dans votre réponse, effectivement vous allez affronter le Leinster le 25 mai, on va dire un de vos meilleurs ennemis. Est-ce qu'il va y avoir un gros sentiment de revanche sur cette finale? Il y a un titre à la clé, il y a aussi les battre, arriver à trouver la solution contre eux. Comment vous avez préparé ce match et préparé aussi mentalement vos joueurs?
Ben oui, après comme je le disais, on s'est déplacé deux fois chez eux et on a pris deux fois 40 points en demi-finale. Là, c'est un match à Londres, c'est une finale, donc forcément que le contexte sera particulier. Je pense qu'on arrive aussi dans des dispositions un peu plus avantageuses pour nous, un petit peu moins fatigués aussi peut-être que les saisons passées. Donc il va falloir les étudier rapidement et mettre des choses en place avec les joueurs pour essayer de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les deux dernières saisons. Donc c'est sûr que le défi s'annonce rude, mais n'est pas impossible.
Wilfried Templier.
Est-ce que vous avez envie de dire au Leinster, ça suffit maintenant, après les deux déconvenues deux années de suite, parce que ça a marqué? On a l'impression aussi que vous êtes dans une sorte de deuxième question, vous êtes un peu obsédé par cette Coupe d'Europe vu vos performances, vos résultats depuis le début de saison. Et voilà, après les deux années de frustration, envie de dire stop face à eux, quoi.
Bah oui, après je sais pas comment on va leur dire, il faut surtout qu'on essaie de leur montrer, mais oui, mais bien sûr qu'il y a de ça. On perd les deux dernières demi-finales chez eux, donc avec des scénarios différents, mais au final on prend 40 points, même si on a parfois l'impression de ne pas être si loin, mais il a toujours manqué quelque chose, donc on va y aller un petit peu à la peau du challenger, mais on va tout faire pour ramener ce trophée à Toulouse. Quand je vois encore la fête qu'il y avait aujourd'hui, sincèrement,
une ferveur extraordinaire.
Ben voilà, tout le monde mérite de ramener ça ici pour faire une belle fête. Voilà.
Laurent, vous qui êtes dans le staff, c'est vrai qu'on est toujours halluciné de voir cette armada du Stade toulousain avec évidemment un 15 titulaire, mais des joueurs sur le banc absolument incroyables. Il y avait encore Marchand notamment sur le banc. Enfin, je pourrais tous les citer. Bref, beaucoup de joueurs. Ramos, oui, non, mais il y en a tellement des internationaux. Est-ce que là, clairement, quand on est Toulouse, on se dit voilà, nous, c'est les deux titres qu'on joue, on va pas en privilégier un plus qu'un autre?
Bah, nous, on n'a pas en privilégier rien du tout. On veut se qualifier pour les demi-finales de Top 14 et on a la chance de disputer une finale en 3 semaines. Donc, on réfléchit pas plus loin et que ça. Bien sûr qu'on veut remporter des titres. Donc, on avait fait le doublé en 2021. Et si on gagne un sur les deux, je pense que tout le monde signera de suite. Après. On va voir déjà assuré, on a un match de championnat contre le Stade français qui arrive dimanche prochain, qui est très important pour cette course à la demi-finale. Et après, forcément, qu'on se tournera vers la finale et on verra. Mais chaque chose a son temps, mais on est là pour gagner des matchs. Donc voilà, on va essayer de tout mettre en œuvre et pour surtout ne pas avoir de regrets à la fin, parce que c'est ce qui serait le plus terrible.
Wilfried, un mot aussi sur Antoine Dupont qui a encore pris des coups. Hein.
67e minute.
Ouais, on parlait du carton jaune justement, mais il a marqué deux essais déjà, Antoine Dupont, le capitaine. Le carton jaune, le déblayage de Walker, le talonneur, qui l'a pris pleine tête, enfin, ou juste en dessous, selon l'appréciation de l'arbitre. Après, il était un peu baissé pour expliquer le carton jaune plutôt que le rouge. Il est en conférence de presse, Laurent, ça a l'air d'aller, Antoine, il est solide?
Oui, il a l'air d'aller bien, donc un petit peu fatigué comme tout le monde, mais il s'est remis de ce choc-là.
Merci Laurent Thuery d'avoir été avec nous en direct dans Bartoli Time.
Merci
et bonne chance pour la fin de la saison.
Exactement, il y aura évidemment le championnat et le 25 mai prochain à Londres, cette finale de Champions Cup face au Leinster avec au commentaire. Évidemment, Wilfried Templier, bien sûr.
Mais Wilfried, alors.
Merci Wilfried.
Merci à vous.
Ah, il s'offre une très belle fin de saison, une nouvelle fois. Wilfried Templier, vous écoutez, vous entendez la musique de la Ligue des Champions. C'est l'heure, il est 19h43, vous écoutez RMC, vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 7-32-16 pour gagner un magnifique cadeau. L'expérience RMC, vous venez à Paris, vous assistez aux émissions, vous avez deux places pour le Parc des Princes, vous revenez dans le studio RMC pour assister à l'after, le débrief de la rencontre. PSG Dortmund, c'est mardi soir. Jouez maintenant, ça peut vous arriver. On vous offre une très très belle soirée sur RMC. 19h44, on se retrouve dans quelques instants pour parler Formule 1 avec Jean-Luc Roy, avec Marion Bartoli, 22h, le Grand Prix de Miami. Et cette question qui hante le paddock, Max Verstappen va-t-il filer à l'anglaise? A tout de suite sur RMC.
RMC Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
19h46 de retour dans Bartoli Time sur RMC. Alors, on va parler d'un de mes sports favoris, la Formule 1. On va pas parler de Lewis Hamilton, malheureusement, parce qu'il part encore en fond de grille. Bon, bref, je suis désespérée. Mais on va parler de Max Verstappen avec Jean-Luc Roy, qui a plein de gossip à nous raconter.
Exactement.
Donc, Jean-Luc,
on
dis-nous tout.
Toutes les dernières informations. On l'accueille. Bonsoir Jean-Luc Roy.
Oui, bonsoir JC, bonsoir Marion, salut à tous.
À 22h, le Grand Prix de Miami. Auparavant, vous donnez la suite de votre programme sur RMC à partir de 20h, vous le savez. En hommage aux victimes de Furiani. Il n'y a pas de match de foot ce dimanche 5 mai. Donc à partir de 20h, vous retrouverez Thibaut Giangrande pour l'after Génération Drôle de Dame. Et demain à 21h, la rencontre de Ligue 1 comptant pour la 32e journée entre Lille et Lyon. Mais tout de suite, comme promis, Max, la menace d'un départ.
12e victoire en carrière pour le pilote hollandais qui fait vraiment coup triple en arrachant également la première place au championnat du monde à son éternel rival Lewis Hamilton.
Et Verstappen va pouvoir triompher, la 6e victoire de la saison pour lui, la 18e de sa carrière de pilote de Formule 1. Il a réussi à repousser l'attaque de Lewis Hamilton qui a été parfaitement menée. Max Verstappen va remporter ce Grand Prix du Mexique, ce qui va lui permettre évidemment d'accentuer son avance sur Lewis Hamilton. Voilà qui est fait. Max Verstappen va devenir le 34e champion du monde de Formule 1 de l'histoire. Le pilote Red Bull à 24 ans. Quelle science du pilotage.
RMC Bartoli Paston.
Et sur la piste, évidemment, Max Verstappen a encore régalé ce week-end en remportant la course sprint du Grand Prix de Miami. Il partira en pôle tout à l'heure à 22h, mais c'est en coulisses que le Néerlandais a accaparé tous les débats. Va-t-il quitter Red Bull et rejoindre, pourquoi pas, Mercedes la saison prochaine? Je vous donne, évidemment, toutes les dernières informations. Déjà, forcément, l'affaire Horner, on en a parlé dans cette émission et longuement sur RMC il y a quelques semaines. Le départ de l'ingénieur historique Adrian Newey, ça c'est une révélation de la semaine. Évidemment, le jeu domino avec le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Bref, cette option, ce scénario prend un peu plus d'épaisseur. Et toute la semaine, la rumeur d'une réunion à venir entre le clan Verstappen et Mercedes a occupé tout l'espace. J'adorerais que Max vienne chez nous, a même lâché le patron de Mercedes, Toto Wolff. Une séduction à coup de zéro. La presse parle d'un montant de 150 millions d'euros par an pour le triple champion du monde. Ce serait du jamais vu en Formule 1. Et la réponse que je vous compte, chers auditeurs, Marion et également Jean-Luc, même si vous l'avez forcément vu tous les deux, voici ce qu'il a dit cette semaine. Pour l'instant, mon avenir est chez Red Bull. Même si c'était le cas, 150 millions, l'argent n'est pas le critère pour que j'aille quelque part. Je suis satisfait de ce que j'ai déjà. Ce qui compte, c'est la performance. Car je sais que si je cours pour la 5e ou la 6e place, je vais devenir grincheux. Toto Wolff le sait. À quoi joue Jean-Luc Max Verstappen en déclarant ceci? Clairement, on sent une porte ouverte.
Alors oui, de toute façon, en Formule 1, j'allais dire, il n'y a jamais de porte fermée. Effectivement, on l'a vu avec le transfert surprise de Lewis hein, chez Ferrari. On ne s'y attendait pas. Il avait dit qu'il poursuivrait auprès de Mercedes et il avait en vue même ce rôle d'ambassadeur à vie. On en a également beaucoup parlé. Donc ça veut dire qu'effectivement, même si Verstappen est lié par contrat jusqu'à la saison 2028, le chant des sirènes peut tout à fait le séduire. Alors moi, je ne crois pas une question d'argent, honnêtement, comme il l'a dit lui-même, parce que on n'attire pas un pilote uniquement avec de l'argent. On l'attire.
Non, mais une voiture moins performante avec les réformes.
Voilà. Alors voilà, c'est, tu replaces en perspective et tu as raison, Marion, c'est effectivement ce changement de réglementation pour 2026. Ça, c'est la clé. Parce que je pense que sur l'élan, Red Bull est quand même au sommet là actuellement, même si Ferrari a comblé une bonne partie de son retard et McLaren également sur certains circuits. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. Je sais, je réclame toujours un petit peu de temps parce que faut des circuits un peu plus variés pour avoir une vue plus globale de la situation.
Ferrari va partir sur 2 et 3. Hein.
Oui, oui, Leclerc c'est pour ça. C'est pour ça. Et puis, ça y est, Leclerc semble avoir retrouvé, il l'a dit lui-même d'ailleurs, sa performance sur un tour. Donc, il a vraiment failli arracher la pole. Et on va voir en course parce que Verstappen ne ment pas. Il n'a pas caché qu'il avait des problèmes de motricité sur ce circuit et qui était un circuit assez lisse, pas très abrasif. L'an dernier, il n'y avait eu qu'un arrêt. Bref, je ne vais pas me lancer dans le
détail.
Mais même,
il a été surpris d'avoir le meilleur tour.
Absolument.
Mais c'est pas possible.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on fait les autres? J'ai fait un des pires tours de piste de ma carrière.
J'ai regardé son tour, il n'était pas merveilleux. Lui-même, à l'arrivée, il dit « Mais je suis où ? Bah, t'as la pole. » Alors, pas de beaucoup, effectivement, mais bon. Donc, ça veut dire que tant qu'on lui donnera du matériel satisfaisant chez Red Bull, à mon sens, il restera.
Et Marion, ce qu'il est en train de dire, j'ai lu la déclaration « Si je cours pour la 5e ou 6e place,
voilà,
je vais devenir grincheux. » Il est en train de dire en creux, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, vous allez me dire. Il est en train de dire à Mercedes
« Mercedes actuellement vaut 5e
voilà.
et 6e. »
Et puis, il est en train de dire à Mercedes actuelles. « Si vous avez une voiture très bonne, là, ok, je viens. »
Et Lewis, c'est grincheux, Marion. Hein, tu vas pas me dire le contraire actuellement. Il
mais
parle huitième. Hein, tu disais en fond de grille.
Je sais. Huitième,
c'est
mais
pas
pour
si
lui,
mal,
c'est fond de grille. Hein,
bah voilà, mais je suis d'accord.
Pour lui, c'est fond de grille. La Russell pense 7. Ah oui. Imagine, les McLaren sont devant.
Non, mais revenons à Verstappen. Alors Marion, il est en train de dire, il est en train de faire un appel du pied à Mercedes.
À Toto Wolff, il est en train de leur dire, vous avez intérêt avec les nouvelles réglementations et 50% de la puissance qui sera électrique pour 2026, de me préparer une voiture canon, sinon je viens pas.
Voilà. Moi, je pense que et la clé, et Toto Wolff l'a bien compris également. Il a l'habitude de travailler. Je parle de Max avec Adrian Newey, qui est un type formidable. Hein, non seulement techniquement, moi j'insiste toujours aussi sur le côté humain. Je sais que ça va te plaire, Marion, parce que c'est un type bien, vraiment. Adrian Newey, c'est un type absolument formidable. Et là, je pense qu'il était arrivé au bout de l'histoire. Ça fait 20 ans ou presque, hein, 19 ans évolu qu'il est chez Red Bull. Bon, il a fait le tour du sujet. Alors c'est vrai que lui, c'est pas.
Alors
le
est-ce
genre.
Qu'on sait où il va aller d'ailleurs? Parce qu'il y a une guerre entre Aston Martin. Martin et Ferrari, d'ailleurs.
Oui, lui, il dit clairement qu'il veut prendre un peu de recul. D'ailleurs, il ne sera libéré qu'à la fin du premier trimestre 2025, pour être précis. Hein. Parce qu'on l'a demandé de terminer l'élaboration d'une machine de route qu'il doit développer et qui s'appelle RB17. Donc, ils y tiennent absolument chez Red Bull. Donc, il va le faire. Alors, après, où ira-t-il? Et ira-t-il tout de suite ou seulement en 2026? Il a parlé de camping-car avec sa femme sur les routes de France. Je peux te le dire. Déjà.
Ah oui.
Ouais, voilà.
C'est déjà un
pour
joli
le
programme.
Non, parce que Lewis Hamilton lui a quand même fait une déclaration en disant
oui.
qu'il voulait absolument qu'il rejoigne l'écurie Ferrari.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Adrian Newey a dit lui-même, c'est vrai que j'adorerais travailler avec Fernando Alonso ou avec Lewis Hamilton, bien sûr.
Comme ça, il ne se ferme pas de porte.
Non.
Il est malin, en
voilà.
plus d'être un
il
gars
est,
bien,
il
possiblement.
Est malin. Il est malin.
Marion, sur le cas Max Verstappen, est-ce que ça te ferait bizarre, toi, de le voir dans une autre écurie que Red Bull et surtout chez Mercedes, sachant tout ce qui a pu se passer entre les deux écuries il n'y a encore pas longtemps?
Alors, je trouverais le clin d'œil hallucinant, mais la Formule 1 devient de plus en plus quand même tournée autour du business, du show-off. La raison pour laquelle, effectivement, ils se sont tournés vers les plateformes de mise à disposition de séries, qui a aussi permis à la Formule 1 de s'ouvrir à un nouveau public. Donc, ça ne m'étonnerait pas, très franchement, qu'effectivement, il y a entre guillemets le deuxième transfert du siècle, parce qu'un des premiers transferts du siècle, c'est quand même de voir Lewis Hamilton partir de Mercedes. On a quand même était extrêmement surpris, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui.
Donc de voir finalement Verstappen se dire, bah tiens, Lewis Hamilton a quitté Mercedes parce que les voitures n'étaient plus performantes et moi je vais venir dans cette écurie et je vais le battre avec une voiture, alors même s'il sera bien sûr une voiture différente parce que la réglementation aura changé, mais de se dire qu'il va battre Lewis Hamilton avec Mercedes qui est l'ancienne écurie Lewis Hamilton, je pense que le défi peut le tenter très 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 largement. Et on sait très bien que tous ces immenses champions fonctionnent à l'ego et que lorsque l'ego frappe à la porte, il est difficile de ne pas lui ouvrir. Donc je pense très largement que si Mercedes arrive effectivement à développer une voiture compétitive, à mon avis, Max Verstappen peut franchir le pas. Et là, ça va redonner encore une fois une attractivité à la Formule 1 qui va être immense. Et là, parce que franchement, Jean-Luc, tu vas pas me dire le contraire, mais chaque week-end, on finit par en rire. Mais on est quand même un petit peu lassé de voir toujours le même qui gagne.
Bah oui. Oui.
Jean-Luc, juste pour 2025, c'est envisageable, vu qu'il n'y a pas encore la réforme, c'est impossible de voir Max Verstappen quitter Red Bull là dès la fin de saison.
À mon sens, oui, parce que l'inertie justement de la domination de Red Bull fait qu'en 2025, je les vois toujours bien. Est-ce qu'ils vont être aussi dominateurs ? Je ne sais pas. Alors que personne peut savoir, et on a eu quelques exemples, ne serait-ce que l'an dernier, si Mercedes peut relever la barre aussi rapidement. Ça a été le cas d'Aston Martin. Rappelez-vous, en début de saison, on les attendait pas du tout là l'an dernier. Ils ont fait une première moitié de saison exceptionnelle. Et puis après, ça a été le cas de McLaren, qui était nulle part. Et à la mi-saison, à partir du Grand Prix d'Autriche, pour être précis, ils ont commencé à marcher. Donc, on souhaite tous, bien sûr, qu'il y ait une quatrième équipe, en l'occurrence Mercedes, dans le coup. Pour le moment, il y en a trois qui se battent vraiment devant. Donc si Mercedes redresse un peu la barre, et qui peut le prévoir dans la deuxième moitié de cette saison, on va dire, bah effectivement, ça fait un argument de moins pour dire Verstappen n'ira pas chez Mercedes parce que la voiture ne marche pas. Alors, en 2025, ça me paraît tôt, mais 2026, ça c'est la charnière pour les raisons que nous avons évoquées, c'est-à-dire le changement de réglementation. Ça c'est la clé absolue. Et là, aucune des équipes, y compris les meilleures, est capable de dire s'ils vont être totalement dans le coup ou pas. Bon, on a quand même une petite idée, mais quand on a vu dans le passé Williams, hein, tu t'en souviens aussi, Marion, qui dominait les années 90 comme c'était pas possible.
Et d'un coup, c'est écroulé.
Voilà, on a vu McLaren Absolument. Le faire. On a vu Ferrari avec Schumacher, c'est pas vieux. Donc, si tu veux, il y a des changements, et les changements de réglementation en Formule 1 sont absolument fondamentaux pour sous-tendre les résultats. Il suffit. Alors, même si la réglementation technique est beaucoup plus rigoureuse maintenant qu'elle ne l'a été précédemment, eh bien, il suffit qu'un ingénieur trouve quelque chose de génial, un new way, par exemple, ou ailleurs, eh bien, à ce moment-là, on a une écurie qui peut dominer. Alors, s'il part demain, on sait qu'il est courtisé même par Williams, parce que James Walls, le nouveau patron, veut redonner son blason, redorer le blason de Williams. Alors ça, ce serait rigolo, hein. Puis il est quand même britannique, Newey. Williams est britannique. Tu vois, je brouille les pistes exprès.
Bon, en tout cas, Max Verstappen, pour ce qui est de la compétition, partira bien en pôle ce soir à 22h pour le Grand Prix de Miami, et tu seras là pour le
devant
commenter.
Devant les Ferrari. Et
quatrième Pérez. Et un bon départ de Charles, on ne sait jamais, devant Verstappen, et là on n'a plus le même Grand Prix, ça je peux vous le dire. On croise les doigts.
Merci Jean-Luc d'avoir été avec
c'est
nous
toujours un plaisir.
Dans Bartoli Time ce soir. Thibaut Giangrande est avec nous également dans le studio RMC. Salut Thibaut.
Salut tout le monde.
Car votre
Salut
programme,
Thibaut.
C'est Salut Marion.
C'est inédit le dimanche, l'After Génération, drôle de dame avec
Exactement.
Toi dans quelques instants.
Quelle excitation de retrouver nos drôles de dames un dimanche soir, juste avant cette semaine excitante qui nous attend avec les demi-finales retour, les nouvelles, les dernières nouvelles du Borussia Dortmund, de l'Atalanta, les adversaires du PSG, de l'OM, le Real Madrid, Fred Hermel, Paulo Breitner, Johan Crochet et Julien Laurence en direct avec vous tous de 20h à 22h. Grosse soirée fou jusqu'à minuit, hein, puisqu'ensuite After de 2h.
Dans quelques instants, donc l'After Génération. Génération After, drôle de dame, vous l'avez bien compris, pour parler du foot européen. Bonne soirée Marion.
Bonne soirée JC, merci à toi de m'avoir assisté pendant cette émission. Merci à vous, mes chers auditeurs, d'avoir passé cette heure avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h sur RMC. Je passe la main avec un immense plaisir à Thibaut. Bonne soirée à tous, au revoir, à la semaine prochaine.
RMC, 19h-20h,
Bartoli Time.